Depuis que nous avons commencé l'école de la prière, nous avons eu des moments de bénédiction, de révélation très très puissants et très importants. Depuis le premier jour de l'école, nous avons parlé de la puissance de la prière et nous avons parlé aussi de la prière de combat. Nous avons aussi parlé de la prière d'enfantement. C'est bizarre comment lorsqu'on parle de prière d'enfantement, beaucoup de personnes pensent que c'est la prière que doivent faire les femmes qui veulent donner naissance aux enfants. Hier, c'est pas par rapport à toi, hein. Parce que hier, en fait, je parlais avec un technicien en informatique qui est en Côte d'Ivoire, et je lui dis, il me demandait sur quoi vous avez enseigné hier, et je lui disais sur la prière d'enfantement. Et il me dit, ah oui, mais c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont stériles. Je dis, mais ce message-là, effectivement, a à voir avec les personnes stériles, mais pas seulement les femmes, parce que il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont stériles. Quand je dis stériles, c'est que ces personnes n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, la stérilité n'est pas seulement sur le plan physique et naturel. Ça peut être également une stérilité financière, une stérilité spirituelle. Quand quelqu'un, par exemple, démarre un ministère, une église, et qu'après 5 ans de ministère, il a toujours 4 fidèles, c'est une forme de stérilité. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un démarre une entreprise et que 10 ans plus tard, cette entreprise-là n'a pas progressé, c'est une forme de stérilité. Et effectivement, dans le corps de Christ, il y a des femmes qui sont stériles. Ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque vous le voyez clairement dans le livre de la Genèse, lorsqu'il parle de bénédiction, il dit « Multipliez, soyez féconds. Multipliez, soyez féconds. » Et quand vous voyez encore Jésus, lorsqu'il nous parle dans le livre de Jean, chapitre 15, il dit « Portez du fruit. » Et il dit, c'est lorsque vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Donc, dans la volonté de Dieu, il n'a jamais été question que nous soyons improductifs. Que ce soit sur le plan des enfants, ou sur le plan des réalisations, ou sur le plan des activités. C'est pas forcément sur le plan ministériel. Mais Dieu veut que nous puissions entreprendre des choses et voir ces choses-là s'établir et se développer. C'est comme ça que l'Église aussi va pouvoir s'imposer. C'est comme ça que l'Église va pouvoir étendre ses limites. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'Évangile a quand même beaucoup d'avance par rapport aux autres pays occidentaux. C'est vrai qu'il fut un temps où l'Allemagne a connu un très grand réveil. Il fut un temps où en Suisse également, il y a eu un très grand réveil évangélique. En Allemagne, le réveil a tellement été important que jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous appartenez à une église, vous pouvez faire un document qui fait de telle sorte que l'État prélève automatiquement la dîme sur votre salaire et le vire à votre église. Quand vous déclarez, par exemple, que vous êtes évangélique de telle communauté, la dîme est prélevée. Par l'État, jusqu'à aujourd'hui en Allemagne. Pour vous dire que ces pays ont connu l'Évangile. Et même en France, il y a eu un grand réveil. Mais ces réveils-là ont difficilement été entretenus. Pourquoi? Parce que les gens ont eu l'impression que la meilleure manière de servir le réveil, c'était d'arrêter toutes ces activités et de se consacrer seulement à la prière. C'est vrai qu'on parle de prière, mais on ne prie pas pour se coucher et dormir. On prie pour pouvoir se lever et agir. Alléluia. Et lorsqu'il y a un mouvement de prière qui se fait, lorsque vous priez, que ce soit une prière d'enfantement, une prière de combat ou une prière de foi, vous priez et ce qui doit suivre après la prière, c'est l'action, c'est l'acte. Et non être une église qui passe son temps à chanter, à danser, à prier. Parce que quand vous avez fini de semer, et que vous avez arrosé et que le fruit et que l'arbre est sorti qui porte du fruit, il faut que vous alliez jusqu'à faire quoi? Jusqu'à récolter ce fruit-là et dire voilà les fruits que j'ai pu produire. Aujourd'hui, l'Église doit avancer. L'Église doit se développer. Je ne peux pas aussi, en ce jour anniversaire du 11 septembre, commencer mon enseignement sans vous parler aussi de cette guerre que fait les nations islamiques contre tout ce qui est chrétien. Ne soyez pas surpris que ce soit effectivement l'Amérique qui soit frappée ou bien qui soit l'épicentre du combat de l'extrémisme islamique contre le monde occidental. Je vous ai dit que moi-même, j'ai été musulman à un moment. Pas musulman de naissance, mais musulman de conversion, de choix. Donc, j'ai étudié l'islam avant qu'on me baptise donc dans l'islam. Il fallait que je connaisse beaucoup de choses par rapport à l'islam. Et une chose que je sais, c'est que dans l'islam, on vous enseigne que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont comme des animaux. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Et que vous pouvez les tuer s'ils refusent de se convertir à l'islam. Oui, on vous enseigne à avoir la haine de tout ce qui est chrétien. Parce qu'il y a un très gros amalgame qui se fait entre catholicisme et christianisme. Pour eux, tous ceux qui sont chrétiens sont catholiques. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans, de toutes les façons, sont chrétiens. Et donc, ce sont les chrétiens qui s'adonnent à l'alcool, à la drogue, à la prostitution, à ces choses-là. Quoique dans l'islam, ce sont des choses aussi qui sont très répandues, mais qui sont cachées. Et donc, il faut abattre le chrétien. Il faut faire le combat. Et le Seigneur l'a dit, dans les prophéties, il a dit, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Donc, nous n'avons pas pour adversaire que l'esprit qui se cache derrière l'extrémisme islamique. Mais nous avons pour adversaire même beaucoup de personnes et beaucoup de mouvements religieux, y compris ceux qui se disent occidentaux, mais qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc nous avons énormément d'adversaires. Nous sommes entourés d'adversaires et nous sommes attaqués de toutes parts. On essaie de nous museler, on essaie de nous empêcher de nous exprimer, on essaie de nous empêcher de partager notre foi. Aujourd'hui, dans un pays qui jadis fut chrétien, il est quasiment interdit d'aller faire du prosélytisme religieux, c'est-à-dire d'aller aborder quelqu'un dans la rue ou bien chez lui et lui parler de Jésus. Il peut avoir des recours contre vous. Vous savez que dans les pays musulmans, il est fortement interdit même de se promener avec une Bible. Mais par contre, ici, ils le font. Ils font du prosélytisme, mais de manière arrangée. Tout le monde le sait. Mais par contre, l'Église évangélique, de plus en plus, voit ses libertés restreintes. Et le Seigneur n'est pas surpris par ces choses, parce qu'il nous avait avertis. Il nous avait dit que les temps allaient devenir de plus en plus difficiles. Si je vous dis aujourd'hui que les temps seront faciles, je serai en train de vous tromper. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Il sera de plus en plus difficile de vivre votre foi. Il vous sera de plus en plus difficile de marcher en conformité avec la parole de Dieu et de réussir dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Mais le Seigneur savait que nous allions vivre dans le monde. Et donc, il a pourvu à des moyens pour nous de communiquer avec lui. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés seuls, ni sans ressources ou sans moyens de communiquer avec lui. Il nous a donné des moyens de communiquer avec lui et de continuer à recevoir de lui des instructions, des directions, des inspirations, de la force, de l'onction et même des bénédictions. Toutes ces choses-là, nous pouvons les recevoir. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un soldat lorsqu'il est au combat que d'être sans moyen de communication. Lorsqu'un soldat est sur le champ de bataille, il a besoin de pouvoir communiquer avec le PC, c'est-à-dire le poste de commandement. Parce que c'est du poste de commandement que toutes les directives sont données. Il peut ne pas savoir que, à 2 mètres de lui, se trouve, par exemple, un blindé. Il peut ne pas savoir que, dans 5 minutes, la zone dans laquelle il se trouve sera bombardée par ses propres alliés. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en guerre. Et donc, un combattant qui n'a pas de moyen de communiquer avec le PC, il a plus de chances même de se faire tuer par ses propres compagnons que par l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? La situation devient dangereuse pour lui dans la mesure où il ne peut plus se diriger, il ne peut plus s'orienter, il ne peut plus se déplacer, il ne peut pratiquement rien faire. La seule chose que ce combattant-là a comme priorité, c'est de rejoindre le plus rapidement le PC ou bien de trouver un moyen de communiquer. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et nous sommes dans un terrain hostile. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes. Et donc nous sommes dans un terrain hostile. Et si nous voulons pouvoir nous déplacer, être efficaces, produire pour le royaume, faire des choses grandes à la gloire de Dieu, il est important que nous ayons un moyen de communication qui nous permette de recevoir du ciel. Si ce moyen de communication est pour une raison ou une autre, alterné, aujourd'hui ou altéré, aujourd'hui, il faut que ce moyen de communication soit rétabli au nom de Jésus. Malheureusement, beaucoup de personnes fonctionnent sur la terre, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas reçu de direction, de directive ou bien de message venant du ciel. C'est pour ça que Dieu nous a donné la prière. Amen. Et il nous a indiqué plusieurs sortes de prières. Dans Actes chapitre 2, verset 42, par exemple. Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, dans l'église primitive, les frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Ils n'ont pas dit dans la prière, mais bien dans les prières. Pour dire qu'il n'y avait pas une seule sorte de prière qui était faite, qui était prononcée ou bien qui était donnée lorsque les frères de l'église primitive se réunissaient. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Éphésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Donc, ce verset-là encore nous montre qu'il y a différentes sortes de prière. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc il nous cite quelques sortes de prières, mais il dit avant toute chose, je vous exhorte donc à faire des prières. Donc il y a plusieurs sortes de prières. Vous me direz, depuis le début de l'école, on a déjà parler de ça, on a déjà dit qu'on allait étudier plusieurs sortes de prières, mais pourquoi revenir dessus? Tout simplement parce que il est important que cette vérité soit ancrée dans votre esprit, qu'il y a plusieurs situations que nous allons traverser, et face à chacune de ces situations-là, il y a un genre de prière qui est approprié. Ces prières doivent être utilisées pour différents besoins, différentes circonstances et différentes situations. Et une des prières qui nous permet de recevoir de Dieu, qui nous permet de pouvoir voir Dieu se manifester directement dans notre vie, c'est la prière de foi. Amen. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, la prière de foi. La prière de foi. Dis à ton voisin, la prière de foi. Tu dois connaître donc les lois spirituelles qui régissent cette sorte de prière. En ne faisant pas l'erreur de croire que toutes les règles qui régissent les prières sont pareilles. En parlant de la prière de foi, nous allons voir donc les caractéristiques de la prière de foi. Première caractéristique, la prière de foi, c'est demander au Père au nom de Jésus. Lorsqu'on fait une prière de foi, on s'adresse au Père, au nom de Jésus, et pas au nom de quelqu'un d'autre. Vous comprenez facilement ce que je veux dire. Jean chapitre 16, verset 24, 23 à 24 nous dit ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc c'est au Père qu'on demande au nom de Jésus. Et il nous le donnera. Maintenant, il continue en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il est important que tu comprennes. C'est vrai, dans l'évangile, le mot Trinité n'apparaît pas. Mais il y a trois personnes distinctes avec qui nous avons des rapports. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque tu t'approches de Dieu ou lorsque tu veux communiquer et lorsque tu veux prier parce que tu as un besoin, tu veux recevoir quelque chose, il faut que tu t'adresses à la bonne personne. Tu peux parler au Seigneur Jésus. Tu peux communiquer avec lui. Tu peux lui dire combien tu l'aimes. Mais quand il s'agit de demander, il faut que ta prière s'adresse au Père. Est-ce que tu me comprends? Je ne dis pas que Jésus, le nom de Jésus n'est pas puissant. Je ne dis pas que le Seigneur Jésus n'est pas puissant. Mais il y a, dans toute organisation, différentes personnes qui jouent différents rôles et qui ont la responsabilité de faire différentes choses. Et en ce qui concerne l'organisation du ciel, qui ne sera pas désorganisée à cause de toi. Est-ce que tu me comprends? C'est pas toi qui vas dire comment le ciel doit fonctionner. En ce qui concerne l'organisation du ciel, toutes les lettres de requête et toutes les prières sont adressées au nom de Dieu le Père. Amen.
Le message que vous allez écouter est disponible en intégralité sur www.benimoi.com. Vous pouvez vous le procurer en support, livre ou CD dans votre librairie ou sur notre web boutique. Excellente écoute.